Mai 2022. Je regarde l'heure. Sophie ne va pas tarder à arriver. Nous étions déjà assez proches, mais le décès d'Emeric a renforcé nos liens. Elle vient régulièrement déjeuner à la maison le dimanche. C'était difficile au début d'être assise dans cette maison avec elle et sans lui. Je suis en train de rectifier l'assaisonnement de ma salade de tomates lorsqu'elle sonne à la porte. « Entre, c'est ouvert !» je lui indique par la fenêtre de la cuisine. Nous bénéficions d'un été anticipé cette année, avec des températures plutôt chaudes pour la saison. Bien sûr, je devrais m'en soucier, le réchauffement climatique et tout ça, mais j'avoue que je ne m'en plains pas. Je sens bien que cette météo clémente joue sur mon moral et qu'il m'est bien plus facile de me lever le matin sous un beau soleil que sous une pluie battante. Je meurs de faim. Depuis le début de la semaine, je suis en jeûne intermittent. Tu peux me croire, c'est loin d'être aussi simple que ça en a l'air. Un jeûne intermittent, c'est-à-dire tu manges un jour sur deux ? La taquinai-je. Ma belle-sœur a testé, je crois, tous les types de régimes possibles et imaginables. Pas nécessairement pour perdre du poids, qu'elle n'a de toute façon pas à perdre, mais juste pour voir si cela lui fait du bien. Un certain nombre de ces tentatives se sont soldées par de bonnes douleurs gastriques, loin de l'effet recherché à l'origine. Non, le jeûne intermittent consiste à mettre ton organisme au repos entre deux repas. Un repos qui doit durer au moins 16 heures. Ça booste l'énergie et améliore la fonction cérébrale. 16 heures ? M'exclamai-je. Genre, là, il est midi, tu n'as donc rien mangé depuis... 20 heures hier soir, répond-elle en attrapant une chips aux crevettes dans un bol sur la table de la cuisine. C'est trop bon, soupire-t-elle de plaisir. T'as prévu quoi au menu ? Salade de tomates, quiche, chèvre courgette et un restant de riz cantonais, si jamais ça te tente. J'ai tellement faim que je mangerai même une vieille semelle de basket. Elle prend place derrière la table et mord dans un morceau de pain. Comment s'est passée ta reprise à la médiathèque lundi ? Je lui sers une part de quiche et complète avec une bonne dose de tomates à la vinaigrette. J'appréhendais pas mal, pour être honnête. Les regards apitoyés, les condoléances, tout ça m'est devenu insupportable. Mais après 2 mois d'arrêt à ruminer au fond de mon lit et à tourner en rond, ça m'a fait du bien de reprendre du service. Et Justine a fait en sorte de ne pas laisser de place à ma mélancolie. Elle a programmé une grosse animation Harry Potter la semaine prochaine. Il y a donc beaucoup de choses à préparer et à caler. Ça permet d'occulter le reste. C'est dingue que ça continue à avoir autant de succès, ce truc. Oh là, malheureuse, ne dis pas « truc » en parlant de Harry Potter ou tu risques de t'attirer les foudres de tous les fans de la planète. Tu sais que quand j'étais petite, j'avais un ami imaginaire qui avait une baguette magique. Et ? Eh bien, j'aurais pu écrire Harry Potter. J'ai sûrement eu l'idée avant l'autrice. Sûrement, dis-je en éclatant de rire. C'est toujours pareil, tu ne me prends jamais au sérieux. Pour toi, je suis l'éternelle petite sœur de... Elle s'interrompt net. Prononcer le prénom d'Emeric est aussi difficile pour elle que pour moi, encore aujourd'hui. Sinon, t'as eu des nouvelles de ton notaire ? Me demande-t-elle après avoir terminé sa seconde part de quiche. Je ne sais pas si le jeûne intermittent booste l'énergie, en tout cas, force est de constater que ça décuple son appétit. « Pourquoi aurais-je dû avoir de ces nouvelles ? » demandai-je aussitôt sur la défensive. « Eh bien, pour la succession. »« Ah, pour ça. »« Oui, pourquoi d'autre ?» J'ai envoyé tellement de courriers et de mails que je finis par mélanger les pinceaux. « Oui, pour la succession, j'ai reçu tout un tas de documents à signer hier ou avant-hier. Tout ça me semble si long, alors qu'il n'y a rien de compliqué. Il n'y avait que nous. » Et à part la maison, les crédits pour les voitures et ce studio que nous avons acheté pour faire un investissement, il n'y avait rien d'autre. J'ai pris un fraisier ce matin en passant à la boulangerie, tu en veux ? Je me lève et me dirige vers le frigo. Sophie change de sujet et me raconte sa dernière galère de boulot. Je ne lui ai pas dit pour la lettre. Elle ne sait pas pour Camille. Si au début j'ai relégué cette information dans un coin de ma tête, parce que ce n'était pas le moment et que c'était trop violent, parce que j'avais d'abord un deuil à vivre, ces derniers jours, elle a repris une place centrale. Emeric a un fils, et je voudrais savoir à quoi il ressemble. « Tu continues à aller voir la psy de l'hôpital ?» me demande-t-elle, alors que je pose devant elle une part de fraisier. « Oui, je l'ai vue 3 fois déjà. J'ai encore un peu de mal avec le fait de déballer mes émotions devant une inconnue, mais je crois que ça m'aide. » Le plus dur à présent, c'est la solitude. Quand je pousse la porte de la maison, pendant quelques secondes, j'ai l'impression que je vais entendre sa voix, qu'il sera là pour m'accueillir. Mais il n'en est rien. C'est le silence qui m'accueille et qui me tient compagnie. J'en ai connu de plus agréable. Tu devrais prendre un chien.
Un chien ? Pourquoi ?
Pour avoir de la compagnie. T'es toute seule dans cette maison. Ça te ferait du bien d'avoir un animal. Tu n'aimes pas les chiens ?
Si, bien sûr que j'aime les chiens. C'est juste que...
Aymeric me disait toujours qu'un chien, c'était de la contrainte, qu'on ne pourrait plus voyager comme on le voulait, que ça laissait des poils partout et aboyait pour un oui ou pour un non. Mais à présent qu'il n'est plus là...
Tu as raison. Ce serait chouette d'avoir un chien. J'en ai toujours eu envie. Un petit chien que je pourrais emmener partout avec moi et transporter dans ces paniers en tissu en forme de maison.
Le visage de Sophie s'illumine.
Il y a un refuge qui a bonne réputation près de chez moi. On y va ce week-end ?
Nous sommes accueillis par une multitude d'aboiements lorsque nous entrons dans le refuge. Une dizaine de personnes déambulent dans l'allée, questionnant les bénévoles présents sur tel ou tel animal.
« Ça me fiche le bourdon, ce genre d'endroit !» me dit Sophie à voix basse.
« Ah bon ? Pourtant, c'est toi qui as suggéré que nous venions, il me semble. »«
Oui, pour adopter un chien. Ça ne veut pas dire que j'aime le lieu. »« Bon, allez, t'en choisis un. On signe les papiers et on rentre Fissa. »«
Regarde celui-là, comme il a l'air chou !» m'indique-t-elle en s'approchant d'un enclos où se trouve un chien de taille moyenne au pelage marron. Elle tend sa main vers lui et récolte un grognement des plus engageants.
« Non, peut-être pas celui-là, finalement, » conclut-elle en retirant sa main, ce qui a le mérite de me faire rire. « Il était sur le point de me dévorer toute crue et toi, tu rigoles »
bougonne-t-elle. À notre tour, nous arpentons l'allée, jetant un œil attendri, néanmoins prudent, au chien proposé à l'adoption. Au bout de 10 minutes, alors que la magie n'a opéré avec aucun, je m'apprête à renoncer pour remettre ça à une prochaine fois. Je n'ai pas envie d'un chien au point d'embarquer le premier venu. Je veux une évidence. Je tourne les talons devant le dernier enclos lorsque mon regard est accroché par 2 grands yeux marrons qui me fixent. Des yeux d'une incroyable douceur dans lesquels je devine aussi une immense inquiétude. Un chien blanc tacheté de noir, ressemblant à un dalmatien, se tient assis au milieu de son box, secoué de légers tremblements.
Il te faudrait un très gros panier en tissu pour transporter celui-là, et une sacrée dose de renforcement musculaire,
se moque Sophie. Oui, ce chien est beaucoup trop grand, beaucoup trop lourd pour que je l'emmène partout avec moi. Pourtant, je ne parviens pas à me détacher de ses yeux.
Comment s'appelle ce chien ? Demandai-je à une bénévole à proximité.
Il s'appelle Ernest, comme Hemingway. J'interromps la jeune femme.
C'est ça. Son propriétaire, un vieux monsieur, était apparemment passionné de littérature américaine. Il a pris ce chien à la mort de sa femme. Il est décédé à son tour il y a quelques semaines. Aucun membre de la famille n'a pu le récupérer, hélas. Il est chez nous depuis.
Ernest. À l'écoute de son nom, le chien remue la queue et jappe.
Tu es sûre qu'il n'est pas trop imposant ?
S'inquiète Sophie.
Il va prendre toute la place sur le canapé.
« Il est parfait, » affirmai-je. « Parfait. » Je ne saurais dire pourquoi, mais je sens qu'Ernest est fait pour moi, comme s'il m'attendait.
« Qu'en penses-tu, Ernest ? Tu aimerais venir avec moi ?»
Il se redresse sur ses 4 pattes et aboie. Il est l'exact opposé du chien que j'envisageais. Mais il est majestueux. La semaine suivante, le temps d'acheter le nécessaire pour accueillir Ernest à la maison dans de bonnes conditions, un gros coussin rouge en velours tout doux, 2 gamelles en inox décorées d'empreintes de pattes de chien, de l'alimentation adaptée, un collier, une laisse et quelques jouets, et de confirmer ma volonté de l'adopter, Sophie et moi retournons au refuge pour signer les papiers.
Tu as conscience qu'il occupe toute la banquette ?
S'enquiert Sophie en se retournant pour observer Ernest, qui a pris place sagement à l'arrière de ma voiture, allongé de tout son long, le museau posé sur ses pattes avant. J'en ai conscience, mais cette banquette n'a accueilli aucun siège auto, ni aucune fesse d'enfant. Alors, elle peut bien être utilisée par un chien. Il était grand temps qu'elle serve à quelque chose. Après le départ de Sophie, Ernest a exploré chaque recoin de la maison, truffe au sol, queue au garde-à-vous, avant de se lever sur son coussin, en poussant un soupir, les yeux grands ouverts, aux aguets. Il n'a pas encore accepté de manger.
L'équipe du refuge m'avait prévenu. C'est beaucoup de changements pour un chien, et il ne me connaît pas. Il faut lui laisser le temps de s'approprier les lieux et les odeurs. S'il ne mange pas d'ici 2 ou 3 jours, alors je pourrai commencer à m'inquiéter et je prendrai rendez-vous avec le vétérinaire. C'est fou comme la simple présence d'un animal réconforte. Il ne peut pas tenir de conversation ni rire avec moi, mais il est là et ça suffit à rendre l'atmosphère plus agréable. Je suis allée me coucher le cœur moins lourd, tout en me disant que j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Aymeric et moi, nous aurions dû faire ça bien avant. N'être que 2, ça n'a jamais été notre plan. Je sursaute et étouffe un cri dans ma chambre, plongée dans le noir. J'ai senti comme une présence, ce qui m'a fait brutalement sortir de mon sommeil. Je me maudis de ne pas avoir pris le temps de contacter une entreprise pour faire installer une alarme. Depuis le décès d'Aymeric, je ne me sens pas rassurée, toute seule la nuit. Non pas qu'il aurait pu empêcher des gens de pénétrer chez nous, mais au moins je l'avais sous la main pour l'envoyer voir quand j'étais réveillée par un bruit. J'avance la main le plus doucement possible vers ma table de nuit. Mes doigts rencontrent la petite bouteille d'eau que j'emporte toujours avant d'aller me coucher. On a déjà vu mieux comme arme, mais ça devrait faire l'affaire. D'un geste rapide, j'allume ma lampe de chevet et brandis ma bouteille, prête à causer de sérieux dommages à l'intrus. Ernest, dont seule la tête dépasse de la couette, m'observe avec ses grands yeux marrons. Il me faut quelques secondes pour me souvenir que j'ai un chien et pour réaliser qu'un chien, ça aboie en cas d'intrusion nocturne. « Ernest, tu n'as pas le droit d'être là, c'est mon lit. Toi, tu dors dans le salon, sur ton coussin. Les humains et les chiens ne partagent pas la même couche, tu comprends ?» Mon chien ne bouge pas d'un millimètre. Il émet même des sons qui s'apparentent à de légers ronflements. « Bon, ça va bien pour cette nuit. Mais demain, tu dors sur ton coussin. » J'affirme avec autorité et conviction. Comme s'il devinait avant moi qu'il n'en sera rien et que céder une fois, c'est céder toutes les fois, Ernest redresse la tête et me gratifie d'un grand coup de langue sur la joue avant de reposer son museau sur l'oreiller et de fermer les yeux.